Lorsque je parlerai du constructivisme, Marie et Jacques m'ont commandé avant de commencer que j'explique un peu comment on pourrait entrer dans une philosophie ou une espèce de philosophie tellement folle. Et je vais essayer de vous raconter comment moi, aujourd'hui, en rétrospective, je vois que je suis devenu constructiviste. Évidemment, comme constructiviste, toute histoire est une construction en rétrospective. Et je vous demande de prendre ça comme ça. Ce n'est pas la vérité, mais c'est comme je le vois aujourd'hui. Alors, je suis grandi dans l'Italie du Nord, dans une situation où on parlait deux langues officiellement toutes les journées. C'était l'allemand et l'italien. Et mes parents étaient autrichiens, mais mon père avait passé beaucoup de temps en Écosse et ma mère aussi parlait l'anglais très bien. Ainsi, quand mes parents voulaient parler de quelque chose que je ne devais pas entendre, ils parlaient l'anglais. Et c'était la meilleure façon pour faire si que moi j'apprenne l'anglais. Et je dirais, si on grandit avec trois langues utilisées tous les jours, et surtout des langues entre lesquelles il n'y a pas de différence sociale, je dis ça parce que aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec deux langues, mais une langue était toujours la langue idéale, c'était l'anglais, et la langue des parents était une langue mauvaise. Et ainsi, ça a généré, je dirais, dans tous ces enfants, une tension émotive qui n'est pas très belle. Dans mon cas, il n'y avait rien de ça parce que les trois langues étaient parlées tous les jours par des gens socialement tout à fait égaux. Et si ça arrive, je dirais que au plus tard, à l'âge de la puberté, quand on se fait les premières questions philosophiques, on s'aperçoit que il y a des différences entre ces langues qu'on parle naturellement parce qu'on n'a eu aucune fatigue en apprendre ces langues. Il y a des différences beaucoup plus grandes qui ne sont plus seulement différences des mots ou différences de la grammaire, mais qu'il se traite des différences en comment on voit le monde. Quand un Italien qui parle seulement l'italien voit le monde, c'est une vision tout à fait différente, tout à fait, une vision assez différente de la vision du monde d'un Allemand qui parle seulement l'allemand. Et si tu parles tous les deux les langues, il faut s'apercevoir de ces différences. Et alors, inévitablement, à un certain point, on se demande, eh bien, il y a la façon italienne de voir le monde, il y a la façon allemande de voir le monde, quelle est la façon correcte? Et je dirais que bientôt, on s'aperçoit que c'est une question stupide. Parce que pour les Italiens, leur façon de voir le monde fonctionne très bien. Pour les Allemands, leur façon de voir le monde fonctionne très bien aussi. Alors, et je répète que c'est en rétrospective, je crois que c'était cette situation qui a dirigé mon intérêt sur l'épistémologie et sur la logique et sur toutes les parties de la philosophie qui prétend de traiter de la réalité. Parce que je voulais vraiment savoir quelle est la façon juste de voir le monde. Eh bien, alors, ça serait une longue histoire, mais à la fin de cette histoire, quand j'ai lu assez de philosophes d'une façon tout à fait sporadique et pas avec l'organisation d'une université, j'ai conclu que les philosophes n'ont jamais résolu ce problème. Ils parlent tous d'une réalité comme si cette réalité était au dehors de leur faculté de connaître, une réalité objective, et ils font ça dans le même temps où les sceptiques, il y a 2500 années, ont démontré très bien que ce n'est pas possible de connaître le monde réel. C'est une impossibilité logique. Alors j'ai commencé à regarder au bord de l'histoire de la philosophie, un bord de personnes qui sont rarement mentionnées dans les départements de philosophie parce qu'ils sont une espèce d'hérétique. Et on n'aime pas les hérétiques. Et entre ces hérétiques, j'ai trouvé beaucoup de matériel pour développer une autre façon de penser de la connaissance. Et je crois que vous avez lu un article dans lequel vous avez une partie de ce modèle constructiviste. Mais je ne veux pas parler aujourd'hui de la philosophie. Je voudrais montrer un autre aspect du constructivisme qui concerne la construction des concepts. Et lorsque, comme vous voyez, ma maîtrise de la langue française, que je n'ai pas exercée pendant plus de 30 ans, ne suffit pas pour donner à moi la confiance d'improviser, je me suis écrit un brouillon de quelque espèce, et je vais lire un peu des choses que j'ai notées avant. Mark Russell, un des rares comédiens intelligents qu'on voit en télévision aux États-Unis, parlait il y a quelques mois de l'éducation. J'aime bien l'écouter parce qu'il rassemble un peu aux cabaretiers qui étaient en vogue en Europe quand j'étais jeune. Il citait un rapport d'une commission du gouvernement dans lequel on parlait de la crise dans les écoles. Crise qui, comme disait ce rapport, se manifeste dans le fait que grande partie des étudiants sortent de la high school, c'est l'école moyenne ou high school, ils sortent de la high school incapables de lire et écrire, incapables d'opérer avec des nombres et avec si peu de connaissances scientifiques qu'ils croient que les phases de la Lune soient causées par l'ombre de la Terre. Les enseignants, disait Mark Russell, veulent qu'on leur donne plus d'argent. Et évidemment, il faut le faire, parce qu'alors, ils enseigneront aux élèves les réponses correctes. C'était dans le contexte de persiflage, et le public riait. Malheureusement, c'est aussi une description assez précise de la situation actuelle. La philosophie générale de l'éducation peut être résumé en disant qu'il faut enseigner la vérité, et la vérité, c'est les réponses correctes. Moi et plusieurs d'autres qui travaillent dans la recherche en didactique sont convaincus que la crise provient directement de cette philosophie et non pas en premier lieu d'un défaut d'argent. Pour comprendre ce point de vue, il faut d'abord examiner comment on est arrivé à cette manie des réponses correctes. À mon avis, la racine principale se trouve dans le fait que pendant 50 ans de notre siècle, nous étions dominés par le behaviorisme. Et je parle des États-Unis. Je sais absolument rien de l'éducation en Canada. Ainsi, toutes les critiques que je fais sont référées seulement aux écoles aux États-Unis. Le behaviorisme, c'est-à-dire une méthodologie qui dirige l'attention exclusivement sur le comportement et ne s'intéresse pas du tout de la pensée ou de l'intelligence. Le behaviorisme, lorsqu'il a travaillé presque toujours avec des rats, a réussi à éliminer la distinction entre le dressage et l'enseignement. Et voilà une distinction indispensable si on veut parler de l'éducation. Voyons un peu quelle est cette distinction. Dressage, qu'est-ce que ça veut dire? Dressage veut dire qu'on veut former un nouveau comportement dans le sujet, dans l'étudiant. Ça. On veut créer un nouveau comportement. Par contre, enseignement veut dire mener l'élève à la construction d'une idée ou d'une structure d'idées. Alors, je ne dis pas si ces idées sont originales ou non, mais c'est évident que les idées ne passent pas d'une personne à l'autre. Il faut le langage, il faut l'interprétation du langage, où chaque parleur, chaque personne qui utilise le langage l'interprète de sa façon. Parce que qu'est-ce que ça veut dire interpréter une pièce de langage? Ça veut dire associer avec des mots des expériences qu'on a eues. Mais ce sont toujours les expériences qui a eu cette personne qui interprète le langage et pas les expériences des autres. Je crois que si vous demandez comment vous avez appris votre langage, et ça n'importe pas si c'est français ou anglais ou italien ou chinois, comment est-ce que vous avez fait ça? On a agi ainsi que vous avez associé certains mots qui sont des bruits pour un enfant, n'est-ce pas? Des bruits un peu spéciaux, mais ce sont des bruits. Il doit associer certains bruits avec certaines expériences. Au commencement, ce sont des expériences surtout tactuelles et visuelles. Mais ce sont toujours les expériences qu'a cet enfant, et pas un autre, et pas l'adulte surtout. Et tous les gens qui ont regardé ou vécu avec un enfant de, mettons, entre un an et deux ans, se sont aperçus que les significations que cet enfant associe avec certains mots qu'il apprend sont des significations différentes des significations de l'adulte. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer ça en détail, mais pensez un moment. La signification du mot « mère » pour une enfant de 18 mois. Elle peut très bien déjà connaître le mot « mère ». C'est peut-être « maman », mais ça peut être aussi « mère ». Alors, c'est une signification bien concise, bien précise. 8 ans après, la signification du mot « mère » pour cet enfant sera bien différente. Mettez encore 10 ans, quand cet enfant peut-être a un enfant elle-même, la signification de « mère » a changé, pas totalement, mais je dirais pour le 80%. Et ainsi pour presque tous les mots que vous apprenez comme enfant. Et qui est qui fait ce changement de signification? Comment est-ce que ça arrive? Au commencement, ça arrive parce que l'enfant veut une chose, utilise un mot pour avoir cette chose, et ça ne fonctionne pas. Malheureusement, je ne sais pas le langage des enfants qui parlent le français. Un des premiers mots des enfants qui parlent anglais, c'est « up ». Ils disent « up » quand ils veulent être posés sur le lit, posés sur une chaise ou quelque chose. Et ils utilisent « up » pour avoir des choses qui sont en eau. Mais la première fois que cet enfant dit « up », parce qu'il veut la pomme qui est là en eau, la mère peut-être vient et soulève l'enfant. Ce n'est pas du tout ce que voulait l'enfant. Alors l'enfant apprend à utiliser une autre chose pour désigner la chose là-haut qu'elle veut. Et il faut que vous souvenez des autres occasions où vous avez changé la signification d'un mot parce que ce mot utilisé par vous n'a pas eu l'effet que vous attendez. Ainsi, les significations des mots sont une chose tout à fait subjective et ça ne veut pas dire que dans l'utilisation des mots, on a un parallélisme, n'est-ce pas, qu'avec un adulte, il y a beaucoup de mots desquels on pourrait dire que la signification dans ma tête est la même que la signification dans d'autres têtes. Parce que je dis à quelqu'un, s'il vous plaît, porte-moi 2 bananes du marché, c'est bien sûr, presque sûr, qu'il arrive avec des bananes et pas avec des pommes. Alors, cette adéquation de signification se fait seulement à travers l'interaction des utilisateurs d'une langue. Mais l'adéquation ne veut pas dire que dans ma conception de banane, il peut encore avoir des choses qu'il n'y a pas dans l'interprétation de banane d'une autre personne. C'est, pour moi, tout ça semble évident. Si je demande tout vous ici maintenant de me dessiner un crocodile, tout le monde dessinera quelque chose. Mais je crois qu'on pourra démontrer que les aspects importants ne sont pas les mêmes dans tous les dessins. C'est-à-dire votre concept de crocodile, ce n'est pas tout à fait le même. Et ça dépend d'où vous avez pris ce concept. Il peut y avoir des gens qui ont vu les crocodiles en Afrique, en Australie, où il y a des crocodiles. Il peut y avoir d'autres qui ont vu des images très bonnes, des photographies de crocodiles. Il peut y avoir aussi d'autres qui connaissent seulement l'histoire de crocodiles. Alors le concept sera bien divers. Alors, je retourne à ma question. Quelle est la différence entre le dressage et l'enseignement? Je vous donne un exemple de dressage. Je pourrais vous demander de répéter après moi la phrase qui s'aiguille. Pour Jean Piaget, le temps et l'espace sont des concepts construits par l'enfant pendant les premières 24 mois de sa vie. Si je faisais répéter cette phrase une dizaine de fois maintenant, demain matin, vous pourriez encore répéter cette phrase. Peut-être en 4 semaines, quand vous avez un examen, vous vous souvenez encore de cette phrase. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose de cette phrase? Est-ce que vous l'avez compris comme une structure conceptuelle? Je dirais du non. Peut-être il y a quelqu'un qui a lu les livres sur l'espace, le temps de Jean Piaget. Alors oui. Mais si vous n'avez pas ce fond d'expérience, cette phrase veut dire très peu à vous. Alors, pour l'enseignant behavioriste, vous avez passé l'examen lorsque vous pouvez répéter cette phrase. Et moi, je dis que ce n'est pas une éducation vraie. Pour avoir une éducation vraie, il faut que vous vous êtes construite une structure conceptuelle avec cette phrase. Alors vous dites, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ah, je dirais, il faut avoir un peu de patience et je vous montrerai une structure conceptuelle qui peut aller assez bien avec cette phrase. Alors, entre les premiers éléments de la construction conceptuelle de l'enfant, il y a la constatation que deux expériences sont les mêmes ou bien ils sont différentes. C'est-à-dire, l'enfant doit comparer une expérience qu'il est en train d'avoir avec une expérience qu'il a eue auparavant. Si toutes les expériences dans la vie d'un bébé seraient considérées différentes, ce bébé n'arriverait jamais à avoir un monde structuré, un monde avec choses, relations entre eux, etc. Il aurait un monde constitué par une infinité d'expériences isolées. Ce bébé, par exemple, n'aurait jamais besoin du pluriel d'un mot, parce qu'il ne pourrait jamais trouver dans son expérience deux choses pareilles. Ainsi, il semble indispensable que, de temps en temps, le bébé ait des expériences qu'elle peut considérer les mêmes. En effet, si on observe des bébés, on voit que très tôt, ils semblent reconnaître certaines choses. Et ça veut dire, de quelque façon, ils se rendent compte que l'expérience présente rassemble une expérience déjà eue. Mais si on se demande comment on pourrait arriver à une telle conclusion, on s'aperçoit que considérer deux choses égales est une opération plus compliquée qu'elle semble. Il y a là une ambiguïté qui ni les grammaticiens ni les linguistes aiment discuter. Mais si on veut analyser la formation des concepts, et surtout des concepts abstraits, il faut résoudre cette ambiguïté. La conclusion que deux expériences sont les mêmes ouvre deux possibilités qui sont essentiellement différentes. Pour expliquer cette différence, il faut retourner à la comparaison dont elle sort. Si on conclut qu'une expérience qu'on est en train d'avoir rassemble à une expérience qu'on a déjà eue, il faut qu'on ait abstrait quelques propriétés de la première et qu'on retrouve les mêmes propriétés dans la seconde. C'est-à-dire, on s'est construit une espèce de matrice de propriétés à laquelle on peut confronter des expériences qu'on est en train d'avoir. Si une expérience s'accorde bien avec cette matrice, on dira qu'elle est la même expérience. Je fais une parenthèse ici pour dire que ce que je viens de dire ici n'est rien d'autre que Piaget appelle l'assimilation. C'est-à-dire une expérience que j'ai maintenant est assimilée à une expérience que j'ai déjà eue. Je la considère la même. Alors, lorsqu'on postule que les expériences correspondent à des objets, on aura une bonne méthode pour générer des classes d'objets. En ce cas, on aura plusieurs objets, mais toujours la même expérience. Et si on a une répétition de cette expérience, on pourra employer le pluriel du mot qui désigne l'objet en question. Je vais tenter d'expliquer ça un peu. Si vous voyez, mettons deux ou trois verres sur une table. Vous utilisez le pluriel pour ça. Vous pourriez dire, il y a des verres. Et comment est-ce que vous arrivez à cette conclusion qu'il y a une occasion qui justifie l'utilisation de pluriel? Ou bien une situation dans laquelle il y a une pluralité. Je vous demande de penser un moment, comment est-ce que vous faites ça? On dit d'habitude que c'est une question de perception. Je vois qu'il y a deux. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce verre qui te dit, je suis numéro un, et il y a un autre verre ici, il dit, je suis numéro deux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, ici, je suis pluriel, ou ici? Pas du tout. C'est vous, le percepteur, l'observateur, qui doit construire le pluriel. Et je vous dirais très vite comment. Vous percevez un verre ici. Alors, vous faites une autre perception ici, et vous vous apercevez que c'est le résultat, c'est le même du celui que vous avez déjà eu. C'est une répétition d'une perception. Mais c'est ce fait de la répétition, c'est vous qui le faites, parce que vous répétez la perception. C'est tout à fait le vôtre. Il n'y a rien là qui vous dit « je suis pluriel ». Il n'y a autre chose qu'une occasion pour vous de vous apercevoir que c'est une occasion où je peux faire la même opération de perception deux ou plus fois. Et c'est ça que la signification du pluriel. Pas une chose perceptuelle, mais une chose opératoire. Ça se réfère aux opérations que vous avez faites. Dans ce cas, la conscience, merci. La conscience d'avoir fait un acte de reconnaissance deux fois avec le même résultat. Sans ça, vous n'auriez jamais un pluriel. Et évidemment, avec cette reconnaissance d'avoir fait le même acte de reconnaissance plus d'une fois, vous pouvez construire une classe. Parce que la matrice de propriété qui vous permet de dire c'est la même reconnaissance que j'ai fait, reconnaissement que j'ai fait la première fois, c'est une matrice assez précise. Il dit, ça doit être rond, ça doit être d'une certaine hauteur, ça doit être peut-être d'une couleur, d'un certain poids. Ce sont des propriétés que vous retrouvez et dont vous faisiez le même objet. C'est la première possibilité que vous avez avec la constatation que deux expériences sont les mêmes. Par contre, on peut aussi considérer que la répétition de cette expérience qui reste toujours la même provient d'un seul objet qui, lui aussi, reste toujours le même. C'est-à-dire, on génère un individu qui maintient son identité. Si je suis un prestidigitateur et je suis capable de vous montrer ce verre avec de l'eau ici, puis je fais comme ça, et le verre de l'eau apparaît ici. Vous croyez, ou vous vous êtes mené à croire, que ce verre d'eau ici est identique avec le verre d'eau ici. Les prestidigitateurs font ça souvent avec des monnaies. Ils tirent une monnaie du nez d'un spectateur, et puis cette monnaie arrive dans votre poche. Et l'art du prestidigitateur consiste précisément dans le fait qu'il fait vous croire qu'il y a une identité là. C'est le même individu qu'il a tiré du nez d'un autre. Alors, vous avez un objet qui génère la même expérience en plusieurs occasions. Et ça, et la base de ça est ce que j'appelle l'identité individuelle. Dans ce cas, on aura plusieurs expériences considérées toujours la même, et ces expériences correspondent à un seul objet. C'est la naissance de ce que Piaget a appelé objet permanent, ou plutôt la création d'un des aspects nécessaires pour la genèse de l'objet permanent. Maintenant, je vous demande un supplément de patience. J'arrive à la dernière étape de mon exposition. Si on suppose qu'un seul objet soit la source de plusieurs expériences, alors cet objet permanent doit avoir quelque part où il peut rester pendant les intervalles quand on s'occupe d'autres expériences. Je crois que c'est très clair. Si vous voulez maintenir que ce verre est le même verre, dans le sens c'est le même individu que vous avez vu hier sur cette table, il faut bien que ce verre ait une table pour rester dessous quand vous allez au lit, quand vous faites petit déjeuner et quand vous ne voyez pas ce verre, quand il est dehors votre champ d'expérience. Bien, cette espèce de reposoir où les choses peuvent attendre votre attention, je l'appelle proto-espace, parce que c'est la base de tous les concepts d'espace auxquels on arrivera dans le développement conceptuel. Évidemment, le proto-espace n'est pas encore un espace métrique dans lequel on peut mesurer des distances ou spécifier des relations spatiales. Ce n'est qu'un lien logiquement nécessaire pour conserver les objets permanents, mais c'est le fond sur lequel on construira toutes les autres propriétés de l'espace. Parallèlement, l'idée de l'objet permanent requiert que cet objet ait une durée pendant les intervalles quand on s'occupe d'autre chose. La même chose, ce verre, quand il est dehors votre champ d'expérience, doit passer l'intervalle dans lequel vous avez d'autres expériences pour pouvoir retrouver ce verre après. Cette perdurance, elle aussi, est logiquement indispensable. Si je veux que l'objet dont je fais l'expérience en ce moment soit le même identique individu dont je faisais l'expérience tout à l'heure, il faut que cet objet ait passé cet intervalle de quelque façon. Eh bien, une fois établi cette partie de mon monde conceptuel, je peux facilement projeter la séquence des durées des expériences que j'ai eues pendant l'intervalle sur la durée de cet objet qui attendait mon attention dans son reposoir. De cette projection d'une durée sur une autre produit ce que j'appelle le proto-temps. C'est-à-dire que le temps se produit en projectant une série d'événements sur une autre série d'événements. Dans ce cas aussi, il n'y a pas encore une métrique, mais on a déjà la possibilité de spécifier un avant et un après. Et lorsqu'on établit une durée comme unité paradigmatique, par exemple le tour d'une aiguille d'une cloche, on pourra projeter cette unité sur la durée d'un autre événement et ainsi mesurer le temps. Je vous ai présenté cette explication plutôt abstraite pour montrer que le constructivisme n'est pas seulement une position épistémologique, mais comporte aussi une recherche sur les bases de notre monde conceptuel. Pour un jardinier ou un charpentier ou un maçon, ces bases peuvent être pas très importantes. Mais par contre, pour les gens qui veulent s'occuper de psychologie, des sciences et surtout de l'éducation, la conscience de modèles que puisse expliquer la formation des concepts les plus élémentaires devrait être indispensable. Pourtant, à ce point, vous pourriez demander pourquoi parler de construction? L'espace est tout autour de nous, le temps passe sans que nous faisons rien, c'est la réalité qui est comme elle est. Je réponds oui, c'est vrai. Tout ça a l'air d'être indépendant de nous. Mais ça nous semble ainsi parce que nous, comme a dit très bien Spencer Brown, avons oublié comment nous l'avons fait. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples de concepts bien plus simples et pratiques que ceux de l'espace et du temps. Et quand même, je doute que vous vous soyez jamais rendu compte de la construction qu'il faut faire pour les avoir. Prenez la constellation d'étoiles qui s'appelle Cassiopeia. Si vous regardez le ciel d'une nuit claire, cette constellation est assez voyante, comme pendant à la Grande Ourse. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Cassiopeia, mais si vous avez l'étoile du Nord, on dit le tas polaire, l'étoile du Nord, vous avez la Cassiopeia ici. C'est un W. Et la Grande Ourse... un peu comme ça, de l'autre côté de l'étoile du Nord. C'est une W formée de 5 étoiles dont les astronomes parlent comme alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Les distances qui séparent ces étoiles de la Terre sont bien connues. En regardant Cassiopeia, on voit le W précis et éternel qui est toujours le même. Et on ne pense pas aux distances des étoiles individuelles. Mais ces distances relèvent un fait intéressant. Delta se trouve à 43 années-lumière de notre Terre. Epsilon à 520 années-lumière de la Terre. Les autres trois étoiles ont des distances entre ces deux extrêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous bougez un tout petit peu, compté en années-lumière, dans l'espace de l'univers, la W disparaît. Quand vous vous approchez, par exemple, de delta, un seul 43 années-lumière, il n'y a plus de W. Parce que les autres sont à 10 fois cette distance outre la première. Alors je demande, où est cette W? Où est-ce qu'elle existe? Eh bien, elle existe dans aucune place que la rétine de vos yeux et peut-être l'émulsion d'une photographie. Vous avez 5 points dans la rétine ou sur cette émulsion que vous coordinez d'une façon que vous faire reconnaître une W. C'est assez étrange parce que cette forme a été connue au moins 3000 ans. Elle a guidé la navigation. dans tous les pays du monde, c'était du Nord, n'est-ce pas? Alors, elle est bien réelle, n'est-ce pas? C'est la réalité comme nous la voulons. Et quand même, ça n'existe dehors votre appareil de perception, comme W. Vous le voyez. Presque tout le monde le voit. Mais si vous parlez d'une existence objective, qui devrait dire une existence indépendante de l'observateur, ces W n'existent pas. Autre exemple, le mathématicien Benoît Mandelbrot, il y a quelques ans, posait une question qui semblait tout à fait banale. Il demandait quelle était la longueur de la côte de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour trouver la réponse? Sûrement, vous diriez, on a déjà mesuré cette longueur. Peut-être vous avez raison, je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut mesurer la côte d'une île ou de l'Angleterre? Bien, vous savez bien comment les gens qui font la géographie, comment ils font ça? Si vous avez une pièce de côte, mettons que c'est comme ça, alors on fait un point ici, un point ici, et avec la triangulation, on calcule les longueurs. Vrai? Vous croyez? Mais c'est une longueur, oui. Mais est-ce que c'est la longueur de la côte? Non. C'est peut-être une approximation. Mais une approximation à quoi? Ça semble tout à fait simple, mais une approximation à la longueur de la côte. Mais qu'est-ce qu'est la longueur? Qu'est-ce que c'est la longueur de la côte? Vous voulez la mesurer avec un pied, avec un centimètre? Imaginez les difficultés. Il a des cailloux. Il faut compter ce caillou ou non? Il a un caillou avec un peu d'eau de ce côté. Ça appartient encore à la côte ou non? C'est une impossibilité pratique de trouver une mesure exacte de la côte d'Angleterre. Si vous descendez sur le niveau des molécules, le concept de la côte disparaît tout à fait, parce que les molécules ont plus d'espace entre eux qu'avec les molécules de la Terre se mêlent avec les molécules de la mer. Et ce n'est plus une ligne que vous pouvez tirer. Alors, où est ce concept de la côte et de la longueur de la côte? C'est un concept assez utile, n'est-ce pas? Si vous voulez calculer le terrain de l'Angleterre, il vous faut savoir la circonférence, la côte. Et ça fonctionne très bien. Mais si vous voulez parler de l'existence dans le sens philosophique, ça n'existe pas du tout. Ce sont des constructions conceptuelles qui sont terriblement utiles, pratiques. On a besoin de ça pour vivre. Mais ce n'est pas la réalité absolue dont voulaient parler les philosophes. Autre exemple. Il y a entre vous quelqu'un qui joue aux échecs? Il y a des gens qui... Personne ne joue aux échecs? Il y a quelqu'un quand même. Eh bien, je suis sûr que vous connaissez très bien ce moment affreux où vous apercevez que votre adversaire a la possibilité de vous mettre dans une position de mat, on dit, mat ou mat?
Mat.
L'estomac, un crampe. Le cœur commence à battre. Les mains vont comme ça. C'est une des chocs les plus réels que vous pouvez avoir. Et je vous demande, où est cette situation qui crée ce choc? Vous direz, eh bien, c'est sur l'échiquier. Mais non. Sur l'échiquier, il y a des pièces de bois, ou d'eau, ou d'argent, ou qu'est-ce que vous voulez. Mais il n'y a pas l'attaque. Il n'y a pas ce danger. Il n'y a aucun danger sur l'échiquier. C'est vous qui le voyez parce que vous avez certains concepts, vous avez certaines règles que vous avez dans un certain sens promis de maintenir lorsque vous jouez aux échecs. C'est toute une construction conceptuelle et pas autre chose. Et de nouveau, je dis, c'est tellement réel, ça vous fait de la peine physique, n'est-ce pas? Eh bien, toutes ces choses sont, je crois, on peut vraiment dire que ce sont des constructions. Et alors, la question est si on peut appliquer ce modèle à tout le reste. Et le constructivisme que j'ai présenté dans mes essais est vraiment un essai de généraliser ce modèle qui est assez utile, assez potent dans certaines circonstances. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé une raison pour ne pas appliquer ça à toute connaissance. Et je veux dire, pour finir, que comme constructiviste, on n'a aucune illusion que ce qu'on fait, c'est la vérité avec la V grande. C'est un modèle, c'est une façon de penser qui peut être très utile. Et c'est à vous de décider si vous la trouverez utile ou non. Merci.